Voici une question qui est dans la pensée de plusieurs. Qu'est-ce qui prouve que la Bible est la parole de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui confondra tous ceux qui ne le croient pas, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on a encore de bonnes questions à poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. Je crois qu'on va tous en apprendre beaucoup sur la souveraineté de Dieu, alors qu'il va répondre aux questions que voici. Est-ce qu'il y a des choses qui démontrent que la Bible est la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent l'idolâtrie? Qui est derrière l'idolâtrie? Qui est derrière le spiritisme? Est-ce que la fonction de pasteur se transmet de père en fils? Y a-t-il une époque dans l'histoire où l'Égypte s'est christianisée? Qu'est-ce que le prophète Ésaïe a prophétisé concernant l'avenir de l'Égypte? Où faut-il aller pour être secouru dans tous nos besoins? Demeurez avec nous, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que la Bible répond à chacune d'entre elles. Mais premièrement, remercions Dieu pour sa parole merveilleuse qui transforme nos vies de jour en jour. Oui Seigneur, c'est avec reconnaissance qu'on vient te dire un gros merci pour ta merveilleuse parole, cette nourriture pour nos âmes. Merci aussi pour cette liberté qu'on a ici au Canada, de pouvoir la lire, de pouvoir l'étudier, de pouvoir l'entendre prêcher, de pouvoir la pratiquer. Merci, mon Dieu, ta parole est merveilleuse et on désire que tu nous l'enseignes encore aujourd'hui. Touche nos cœurs, transforme-nous par tes Écritures, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné des oracles prononcés par Ésaïe sur Damas, Éphraïm et l'Éthiopie. Nous avons souligné que Damas, qui représentait la Syrie, et Éphraïm, qui représentait le royaume d'Israël ou le royaume du Nord, ont été châtiés ensemble puisqu'ils s'étaient alliés pour combattre Juda. Nous avons précisé que Dieu châtie à la fois pour protéger ses enfants et son peuple ou son Église. Par contre, lorsque le peuple de Dieu se repent et revient à lui, Dieu lui rend les bénédictions qu'il lui avait retirées. Nous ne devons pas oublier Dieu, mais plutôt demeurer en relation intime avec lui. Celui-ci contrôle tous les événements, et si nécessaire, il n'hésitera pas à nous châtier pour notre bien. Nous avons aussi étudié un oracle sur l'Éthiopie. Cependant, cette nation n'a pas été entièrement détruite comme d'autres nations. Pendant le règne millénaire, cette nation viendra adorer à Jérusalem. L'oracle sur l'Égypte démontre l'exactitude de la parole de Dieu. Les chapitres 13 à 23 présentent 11 oracles sur les nations qui entourent Israël. La prophétie au sujet de l'Égypte est le 6e oracle. Il n'est pas étonnant de noter que l'Égypte est sur cette liste. Ce passage démontre l'exactitude de la parole de Dieu. Les prophéties accomplies prouvent que la Bible est la parole de Dieu. L'Écriture parle beaucoup de l'Égypte et de ses relations avec Israël. L'histoire de l'Égypte remonte plus loin dans le temps que celle des autres pays mentionnés dans l'Ancien Testament, y compris Israël. En fait, la nation d'Israël s'est formée en Égypte. La famille de Jacob, comprenant 70 personnes, est descendue en Égypte, et lorsque les Hébreux quittèrent l'Égypte, ils étaient au moins 1,5 million. L'Égypte était déjà un ancien pays à cette époque. L'histoire de ce pays s'est poursuivie sans interruption jusqu'à nos jours. Le pays existe toujours, et il joue un rôle important au Moyen-Orient. Ce chapitre lui prédit un avenir glorieux. Ce chapitre traite du passé, du présent et de l'avenir de l'Égypte. L'Égypte est mentionnée la première fois dans l'Écriture alors qu'Abraham s'est réfugié avec sa famille pour échapper à la famine et qu'il s'attire des difficultés. Plus tard, Joseph a été vendu en Égypte, et pendant une famine, la famille de Jacob s'est établie dans ce pays. Là, Israël est devenue une nation nombreuse, mais elle a aussi été réduite à l'esclavage. Beaucoup plus tard, lorsqu'Israël était de retour en Palestine, deux de ses rois, Achas et Ézéchias, ont traité des alliances avec l'Égypte. Cependant, l'Égypte s'est avérée être un allié peu fiable. Pendant la période entre les deux testaments, soit de Malachie à Matthieu, Israël a beaucoup souffert entre les mains de l'Égypte. Lorsque le Seigneur Jésus est né, il a été conduit en Égypte pour échapper à Hérode. Pendant les trois premiers siècles de l'Église, de nombreuses personnes se sont converties en Égypte. De ce pays nord-africain sont sortis trois grands saints de l'Église, Athanase, Origène et Augustin. Cette liste de trois noms n'est pas complète. Dans l'histoire rapprochée, l'Égypte a été le premier pays à signer un accord de paix avec Israël. Chers amis, débutons la lecture d'Ésaïe chapitre 19, verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Les gens pratiquent l'idolâtrie car ils rejettent Dieu. Dieu condamne principalement l'idolâtrie de l'Égypte. Nous reparlerons de ce sujet en étudiant le livre d'Ézéchiel, alors que Dieu dit que les idoles disparaîtront d'Égypte. Babylone est probablement le seul pays à avoir pratiqué l'idolâtrie plus que l'Égypte. Ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, versets 21 à 23, décrit bien l'Égypte de l'époque. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Les événements historiques ont le reflet d'un combat dans le monde spirituel. L'histoire démontre qu'à l'origine, l'Égypte était un pays monothéiste, c'est-à-dire qu'elle n'adorait qu'un seul Dieu. Graduellement, elle s'est enlisée dans l'idolâtrie et toutes sortes de créatures ont été adorées. Le bœuf, la grenouille, le scarabée, des poissons et toutes sortes d'oiseaux. Lorsque Moïse a été prêt à délivrer les Hébreux de la main des Égyptiens, Dieu a livré tout un combat aux idoles. Chaque plaie visait un dieu égyptien ou une idole particulière. Dieu a frappé le soleil, le Nil, les grenouilles et les poux. En fait, Satan se trouve derrière l'idolâtrie et nous avons assisté à un combat entre Dieu et Satan dans le monde spirituel. Si vous désirez vous rafraîchir les mémoires à ce sujet, je vous invite à réécouter nos émissions sur le livre d'Exode. Elles sont sur notre site internet à www.espoir.ca. Dieu vient sur une nuée rapide pour de nouveau détruire les idoles d'Égypte. Il est intéressant de noter que l'idolâtrie a depuis longtemps disparu d'Égypte, bien que le pays soit musulman plutôt que chrétien. Ésaïe 19, verset 2. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. À l'époque d'Ésaïe, quelques pharaons ont monté sur le trône, mais ils n'ont pas réussi à maîtriser l'armée et le peuple. L'armée n'obéissait plus au pharaon et il n'avait plus le respect du peuple. Pendant un certain temps, les villes se gouvernaient elles-mêmes. Certaines villes ont eu alors beaucoup d'influence, dont Thèbes et Karnak. Verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Des puissances démoniaques se trouvent derrière le spiritisme. L'Égypte était une nation fière, et sa civilisation était plus avancée que celle des nations avoisinantes. Nos pays doivent tous quelque chose à la civilisation égyptienne. L'Égypte est venue à se tourner vers les idoles, et dans son désespoir, même vers le spiritisme.
Lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, les magiciens du Pharaon ont reproduit les premières plaies qui ont frappé le pays. Ces magiciens n'étaient pas des charlatans, mais ils étaient sous une puissance démoniaque. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. L'Égypte a été rabaissée, et elle n'avait jamais récupéré toute sa gloire au temps de Jésus-Christ. Verset 4. « Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Il est difficile d'identifier ce roi cruel parce que l'Égypte a souvent été envahie au cours de l'histoire, et la nation a été réduite à la pauvreté. Verset 5. « Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. » Ce verset réfère au Nil, un grand fleuve qui traverse l'Égypte et qui était aussi une voie navigable. Verset 6. « Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. » Le delta du Nil était un endroit verdoyant, florissant et paradisiaque. Aujourd'hui, cet endroit est loin d'être ce qu'il était à cette époque. Aujourd'hui, on ne voit pas une végétation luxuriante ou abondante sur les rives du Nil, comme c'est habituellement le cas avec les grands fleuves. Verset 7. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Des roseaux poussaient le long du Nil et ils servaient à fabriquer le papyrus. À cette époque, on utilisait le papyrus comme on utilise le papier aujourd'hui. La fabrication du papyrus était une industrie prospère qui enrichissait le pays. Les Phéniciens ont fait le commerce du papyrus dans tout le monde civilisé, et celui-ci a remplacé les tablettes d'argile. Aujourd'hui, le roseau qui servait à la fabrication du papyrus n'est plus une plante commune. La plante ne se trouve plus sur les rives du fleuve, mais sur les propriétés des riches. Elle est devenue un item luxueux. Dieu a annoncé que cela se produirait. Vous pouvez peut-être proposer une explication scientifique ou naturelle, mais je crois que la main de Dieu était derrière cela. Verset 8 d'Ésaïe 19. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. La pêche était aussi une industrie prospère en Égypte. La faune aquatique du Nil était d'une richesse exceptionnelle. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils se sont plaints de ne plus avoir de poissons. Dieu leur a envoyé des cailles, mais elles n'ont pas fait leur bonheur, car ils en ont été malades. La faune aquatique du Nil est presque épuisée de nos jours. La pêche n'est plus une grande industrie. Cette prophétie s'est accomplie littéralement. Verset 9. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Le lin de l'Égypte était d'une qualité exceptionnelle. Il était presque comme de la soie, une fois tissé. Les enfants d'Israël ont utilisé ce lin pour la construction du tabernacle dans le désert. Dieu a dit que cette industrie disparaîtrait, et ce fut le cas. La prophétie s'est accomplie. Verset 10. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les mercenaires sur lesquels s'appuyait l'Égypte ne lui seront d'aucun secours. Ils se décourageront et ne combattront pas de tout leur cœur. Verset 11. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, « Je suis fils des sages, fils des anciens rois » La fonction de pasteur ne se transmet pas de père en fils. La sagesse n'est pas héréditaire. Être fils ou descendant d'un sage ne suffit pas. Nous l'avons vu souvent dans l'histoire. Un roi construit son royaume et l'affermit, mais son fils ne réussit même pas à le défendre contre ses ennemis. Cela est vrai aussi du pastorat. Ce n'est pas parce qu'un homme est un excellent pasteur que son fils en sera un. Il faut regarder pour les dons de Dieu et non à l'hérédité. Verset 13. Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Nof sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent l'Égypte. Si nous ne consultons pas Dieu, nous sommes séduits et égarés. Verset 14. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Comme un homme ivre chancelle en vomissant. Le royaume perdra toute sa gloire car la ville de Nophth est prise de vertige. Elle ne perçoit plus la réalité. Elle ne voit pas les malheurs qui s'en viennent. Verset 15. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. L'industrie de l'Égypte sera anéantie et la pauvreté régnera. Les fausses religions déçoivent, les richesses naturelles sont un appui incertain, et si en plus il y a un déclin de puissance spirituelle, un pays réduit à rien. Cette prophétie s'est accomplie. Verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. C'est sur cette femme tremblante que Juda a essayé de s'appuyer pour éviter la captivité à Babylone. De plus, l'expression « en ce jour » place l'accomplissement de cette prophétie dans la grande tribulation. L'Égypte connaîtra la peur de nouveau à ce moment-là. Les versets 17 et 18. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi, dès qu'on lui en parlera. Elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, qui parleront la langue de Canaan, et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Cette partie de la prophétie sera entièrement accomplie au jour du Seigneur. Les versets 19 et 20. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. L'Égypte s'est christianisée dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église. L'Égypte regardera de nouveau à la croix du Seigneur Jésus pendant le millénium. Les versets 21 et 22 d'Ésaïe 19. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Un avenir glorieux attend l'Égypte. La nation fera partie du royaume millénaire avec Israël. Cela semble étonnant, mais la croix abat les murs de séparation. Rien n'est impossible à Dieu. Verset 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Cette autoroute ne servira pas au convoi militaire, mais elle servira à aller à Jérusalem pour servir le Seigneur Jésus qui règnera. Verset 24. En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Égypte aura une position exaltée dans le royaume. Verset 25. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. L'Égypte recevra de grandes bénédictions, la nation retrouvera sa gloire. Les prophéties sur l'Égypte s'accompliront, car Ésaïe était un véritable prophète. » Le chapitre 20 indique qu'Israël ira en captivité 3 ans après la prophétie. Le chapitre 19 termine en décrivant le bonheur de l'Égypte pendant le règne millénaire. L'accomplissement des prophéties rapprochées dans le temps indiquera qu'Ésaïe est un prophète de Dieu, et cela confirmera les bénédictions que recevra l'Égypte dans un avenir lointain. Lisons Ésaïe 20, verset 1. L'année où Tartane, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara. Tartane était le chef de l'armée assyrienne, Asdod était une ville du royaume d'Israël, et Sargon était le successeur de Shalmaneser, roi d'Assyrie. que nous retrouvons dans 2 Rois 17, verset 3 et 18, verset 17. Longtemps, les historiens ont pensé que Sargon, qui est mentionné une seule fois dans la Bible, n'a jamais existé. Ils ne trouvaient aucune trace historique de lui. Cependant, les historiens ont maintenant découvert que la forme assyrienne de son nom est Charukin, et ils ont trouvé beaucoup de matériel historique à son sujet. Verset 2. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Isaïe, fils d'Amoz, et lui dit, « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Isaïe devait devenir une parabole ambulante pour Israël afin de l'avertir de ne pas s'allier à l'Égypte. Le sac que portait Isaïe devait être semblable à ce que portaient Élie et Jean-Baptiste. Isaïe n'était pas nécessairement entièrement nu après avoir ôté son sac. Ses parties intimes devaient être recouvertes. Isaïe se promenait habillé comme le serait une personne capturée par l'armée assyrienne. Verset 3. Et l'Éternel dit, « De même que mon serviteur Isaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. » Revêtu ainsi, Isaïe attirait l'attention et il en profitait pour transmettre le message que Dieu lui avait confié pour son peuple. Il avertissait Israël de ne pas s'appuyer sur l'Égypte et l'Éthiopie, ni de compter sur ces deux pays. Verset 4. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Un pays qui ne peut se défendre lui-même est difficilement un allié fiable. Il ne peut pas défendre un autre pays. L'Égypte et l'Éthiopie ont été envahis par Sargon et ils ont été exposés à la honte prédite par Isaïe. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Au moment de la chute de Jérusalem, le roi s'était enfui en Égypte avec le peuple de Juda, bien que le prophète Jérémie les ait avertis de ne pas descendre dans ce pays. Les Babyloniens les ont rattrapés dans ce pays. L'Égypte et l'Éthiopie sont aussi allés en captivité. Isaïe avait prononcé une malédiction sur ceux qui chercheraient du secours en Égypte plutôt que de se tourner vers Dieu. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Isaïe 31, verset 1. David aussi recommanda à Israël de ne pas s'appuyer sur sa puissance militaire. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le psaume 20, verset 8. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. 1 Chronique, chapitre 16, verset 11. Mes amis, nous aussi, nous pouvons faire cette erreur dans notre vie. Nous pouvons nous appuyer sur toutes sortes de choses, sauf Dieu, sauf notre Créateur, sauf sur celui qui nous aime d'un amour infini. Il y a peu de temps, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'elle était un dieu. Malheureusement pour elle, je crains que son dieu va la décevoir. Bien que sa vie fonctionne bien présentement et qu'elle ait de belles qualités, cette dame n'est pas omnisciente ni omnipuissante. Elle a besoin de d'autres personnes, car elle ne peut pas être spécialiste en tout. Elle est sujette à faire des erreurs et sa vie pourrait prendre un tournant malheureux. Elle pourrait se retrouver avec des problèmes de santé, et elle va vieillir, comme nous tous. C'est de Dieu que nous avons besoin. Nos capacités ne sont pas infinies, mais celles de Dieu le sont. Il nous aime, et ne demande qu'à diriger notre vie. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Isaïe. Les chapitres 21 et 22.
Merci, Régent. Mes amis, on a bien vu aujourd'hui que le seul appui sûr pour notre vie, c'est Dieu. Personnellement, je trouve ça bien réconfortant. Avant de connaître Dieu, je m'appuyais tantôt sur mon expérience personnelle, tantôt sur l'expérience d'un autre. Je m'appuyais sur mes dons ou sur des livres tels que « La pensée peut tout ». et je commettais erreur par-dessus erreur. Je faisais du mal à des gens, même à des gens que je ne connaissais même pas. Et je me faisais du mal à moi-même. Je ne savais pas où aller. Alors je marchais à tâtons. Je faisais toutes sortes de nouvelles expériences en croyant que j'allais trouver l'amour, la paix, la justice. Et j'en ressortais toujours de plus en plus perdante, défaite. J'étais bien malheureuse. Mais, tout comme David le dit si bien dans le psaume 116 au verset 6, « J'étais malheureux et il m'a sauvé. » Eh bien, mes amis, j'étais malheureuse et Jésus m'a sauvé. Merci, Seigneur Jésus. Et merci, mon Dieu, merci le Père qui a donné son Fils. Mon ami, est-ce que tu te reconnais à travers les défaites que j'ai connues dans ma vie? C'est vrai que je n'ai pas donné beaucoup de détails concernant les différentes expériences que j'ai faites dans ma poursuite pour l'amour, la paix et la justice, mais je peux vous dire que ces expériences m'ont amené à sombrer dans le péché. Et si en ce moment tu sursautes en entendant le mot « péché », eh bien, permets-moi de te dire ce que c'est un péché. Dans le petit dictionnaire biblique de Merrill C. Tenney, il est écrit que le péché, c'est tout ce qui, dans la créature, n'exprime pas ou est contraire au caractère du Créateur. Il dit aussi que l'essence du péché, c'est de vivre indépendamment de Dieu. Mais il ajoute que la solution au problème du péché se trouve en Christ, dans la rédemption qu'il nous procure. Quand la personne qui m'a présenté le Seigneur Jésus m'a fait réaliser que j'étais une pécheresse perdue, se référant au troisième chapitre de l'Épître de Paul aux Romains au verset 23, qui cite que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, j'ai trouvé ça bien décourageant. Mais heureusement, elle a ajouté ce qu'il dit au verset 24, et c'est qu'on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ouf, j'étais bien soulagée d'apprendre qu'il y avait un moyen de m'en sortir pour que je ne passe pas l'éternité dans les flammes éternelles, là où je méritais d'aller à cause du péché. Mon ami, sais-tu ce que signifie le mot « rédemption » Eh bien, je suis retournée dans le même petit dictionnaire biblique et j'ai trouvé une explication qui est bien meilleure que ce que je pourrais dire dans mes propres mots. La rédemption, c'est la délivrance de l'esclavage du péché et l'affranchissement dans une nouvelle liberté par le sacrifice du Rédempteur Jésus-Christ. La mort du Christ est le prix du rachat. Mon ami, si tu te vois dans le même dilemme que celui dans lequel je me trouvais autrefois, j'aimerais t'encourager à faire ce que j'ai fait. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché, tourne tes regards vers ce Rédempteur merveilleux, le Seigneur Jésus. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle, et il va le faire.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Réjean, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.